Le journal des médias, c'est donc maintenant un journal qui débute par un journal, ou plutôt une revue.
Oui, une mythique revue consacrée au cinéma d'auteur, Les Cahiers du cinéma, créée en 1951. Et cette revue où de nombreux grands noms du 7e art, Romère, Truffaut, Chabrol ou encore Godard ont fait leurs armes, on a bien failli ne jamais la revoir après sa mise en vente l'an dernier par son propriétaire anglais. Mais un collectif d'amateurs cinéphiles a décidé d'investir dans le mensuel dont les ventes sont tombées à 12 000 exemplaires.
C'est un collectif de lecteurs ?
Peut-être, certainement même, mais pas n'importe quel lecteur, c'est des businessmen chevronnés. C'est comme ça que le quotidien Les Échos, qui dévoile cette information, présente ses 20 repreneurs. Et on retrouve toujours un petit peu les mêmes, notamment Xavier Niel, fondateur de Free, Alain Veil, propriétaire de l'Express, Marc Simoncini, entrepreneur qu'on peut voir actuellement sur M6 dans Qui veut être mon associé. C'est le concours donc d'M6 où il est jury. Tous ont versé un peu de love money, pour reprendre les termes de l'un d'entre eux, pour que les cahiers du cinéma puissent continuer et surtout se diversifier. Du coup, ils devraient proposer un festival, des masterclass et des podcasts, mais aussi se développer sur le numérique et proposer une édition en anglais. À ce stade, aucun chiffre sur le montant du rachat n'a été dévoilé, et c'est aussi ça la magie du cinéma.
Moi j'adore, et puis moi ça me rappelle mon enfance, que mes parents étaient abonnés au Quai du cinéma jaune et noir et blanc. On reste dans la presse, Benjamin, avec un magazine qui paraît seulement une fois dans l'année.
Et ça tombe bien, c'est maintenant. Cette revue s'appelle Tampon et elle parle de
rugby,
comme son nom l'indique. Dans ce nouveau numéro, Tampon consacre sa une à un grand dossier sur la fameuse troisième mi-temps, parce qu'il paraît que c'était mieux avant, et la revue l'annonce, le rugby d'aujourd'hui ne ferait plus la fête. Alors, n'osant y croire, nous avons demandé à Antoine Mestre, le rédacteur en chef de Tampon, si la troisième mi-temps, c'est vraiment terminé.
Les troisièmes mi-temps ne sont pas mortes, elles ont simplement changé. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, on se retrouvait après les matchs pour boire une bière, un pastis et prolonger la soirée. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que le rugby est devenu très très professionnel. Il y a des enjeux de santé, les joueurs sont suivis nuit et jour par des GPS pour alimenter les staffs en data. Donc les mœurs ont évolué, mais la fête persiste. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce qu'on explique dans la grande histoire orale de la fête aujourd'hui qu'on a faite en contactant 25 joueurs et entraîneurs, c'est qu'on raconte qu'aujourd'hui, en fait, elle est plus ciblée, elle est négociée entre les staffs et les leaders de l'équipe. Les joueurs et les équipes finissent toujours de temps en temps à 5h du matin, mais c'est ciblé, il faut choisir le bon moment, il faut choisir le bon lieu un peu à l'écart du grand public.
Si j'ai bien compris, pour sortir heureux, sortons cachés.
Ouais, c'est plutôt ça. Des rugbymen semblent d'ailleurs avoir trouvé la solution pour continuer à s'amuser, comme nous l'explique Antoine Mestre.
Il y a un joueur qui nous raconte qu'aujourd'hui à Castres, pour être tranquille, les joueurs vont au sous-sol d'une boucherie en centre-ville. Ils ont négocié ça entre eux, ils ont trouvé leur endroit, ils sont tranquilles. Avant, on allait faire la fête avec les supporters, on finissait à 5h du mat à manger une omelette chez les supporters. Aujourd'hui, on fait ça dans un lieu intime et protégé. Quoi. On ne peut pas se montrer après une défaite, le grand public ne comprendrait pas.
Et la revue Tampon aborde aussi les relations entre le rugby français et les médias. Le magazine nous dit qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des internationaux en interview, même jeunes ou dans la fougue de l'âge, pour échanger une heure sur le jeu, les copains, les copines, la famille ou la fête. Comment l'explique Antoine Mestre ? On lui a aussi posé la question.
Le rugby marche dans les pas du foot comme sur la fête. Avec 20 ans de retard, comme il est aujourd'hui difficile d'échanger avec les plus grands noms du foot français, parce qu'il faut avoir la validation du club, de l'agent, de la marque, aujourd'hui, il va devenir de plus en plus difficile d'avoir les internationaux de rugby, parce que les enjeux du club, les résultats là, en fonction de la conjoncture, parce que l'agent, parce que des questions d'image, parce que en fait, le sport va être de plus en plus verrouillé, quoi.
Et le magazine Tampon, publié par le groupe Sopress, est sorti en kiosque ces jours-ci. On y retrouve des nombreux rugbymen en interview quand même. Et un qui a raccroché ses crampons il y a bien longtemps, c'est Patrick Sébastien.
Voilà, Tampon édité par Sopress, qui publie déjà SoFoot Society et Pédale, le magazine consacré au vélo. On va passer du rugby à la danse.
Oui, parce qu'il n'y a qu'un pas. C'est celui qu'a fait le jeune Sohan, il a 18 ans. Il est héros d'un beau documentaire à découvrir ce soir sur France 2. C'est dans la collection Infrarouge, présentée par Marie Drucker. Et le film s'appelle Celui qui danse. Alors celui qui danse, c'est ce jeune garçon en difficulté scolaire. Après avoir fait du rugby pendant toute son adolescence, il se découvre à 17 ans une passion pour la danse contemporaine. Ce qui provoque l'incompréhension de tout son entourage, comme il l'explique dès le début du film.
Il y a bien des gens qui m'ont dit « Tu fais du classique ». Je dis « Ouais, pourquoi ?»« Ah mais ça se voit pas du tout, hein !»« Ah bon, ben faut être musclé comme jamais pour faire du classique, faut être blanc, faut faire quoi ?»« Dites-moi en fait, faut être... » Et en fait, ben non, mais c'est juste, ben si t'aimes ton truc, fais ton truc, quoi. Tu sais, t'as tous les gens qui étaient là, qui me croyaient pas en moi, ouais, t'aurais dû rester dans le rugby. Pareil, mes cousins et tout, ils m'ont charrié de ouf, hein. Ils m'ont dit, ouais, quel danseur et tout, je sais pas quoi, quelle minette et tout, mes cousins. Et ils m'ont fait comprendre, en fait, que, ben, clairement, genre, le monde est comme ça, tu vois, le monde est pitoyable. Et que si t'as envie de réussir, ben, bouge-toi le cul, mec, genre, vraiment.
Et Swan est celui qui danse, et celui qui réalise, c'est Olivier Lemaire. On lui a demandé pourquoi il a souhaité montrer ce parcours, ce changement qui pour beaucoup forcément paraît surprenant.
Moi j'ai voulu faire ce documentaire pour parler du déterminisme social. J'ai voulu parler de la difficulté qu'on a aujourd'hui en France à sortir de sa catégorie socio-culturelle assignée. C'est comme si on naissait dans une catégorie et qu'on n'avait pas tellement le droit d'en sortir. C'est ça le sujet du film, j'ai voulu parler de ça. En fait, Swan est confronté à toute la société. Et la société implique et comprend ses parents, ses amis, ses anciens copains du rugby, ses petites amies, l'école, les professeurs. En fait, tout le monde observe sa bifurcation de trajectoire avec étonnement et parfois avec jugement. Et le jugement parfois est lourd et cruel.
Voilà un film qui devrait plaire à la fois à ceux qui aiment la danse, mais le rugby aussi, à en croire toujours son réalisateur, Olivier Lemaire.
Je veux surtout pas que ce film s'adresse seulement à des gens qui aiment la danse. Ce film s'adresse à tout le monde. Et ce film s'adresse aux gens qui ont envie de faire autre chose que ce qui avait été plus ou moins prévu par leur origine sociale.
Et ce film est aussi l'occasion de montrer la danse comme on la voit peu. Finalement, les médias n'ont pas l'habitude de la montrer, en tout cas. C'est aussi comme ça qu'ils nous l'expliquent. Écoutez.
La danse est très exposée, mais plutôt utilisée presque comme un argument publicitaire. C'est quelque chose, il y a une image assez valorisante de respectabilité à montrer de la danse. Alors ça, on voit beaucoup ça dans la publicité, au cinéma, dans la presse, etc. Mais ça reste quand même quelque chose qu'on associe à la féminité, à certains codes comme ça, dont on a quand même un peu du mal à sortir. C'est dommage qu'on ne la montre que comme ça. La danse, c'est aussi un truc de mec.
Un truc de mec, et celui qui danse, c'est à découvrir ce soir, c'est à 23h40 sur France 2. Et comme c'est tard, bah, si vous dormez, pensez au replay.
Et puis pour terminer, Benjamin, vous allez nous parler d'un nouveau télécrochet qui devrait bientôt arriver sur Netflix.
C'est Le Parisien qui le révèle. Netflix recherche la nouvelle star du rap français et souhaite lancer en France l'adaptation de son show Rhythm Plus Flow. Une émission autour du rap qui met en scène trois jurés, trois stars du hip-hop et notamment l'américaine Cardi B, connue désormais pour ses attaques contre Donald Trump et son soutien à Bernie Sanders, mais aussi et surtout pour ça. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is the money. En France, le projet est au stade du développement. La production n'a pas encore été choisie. Il reste aussi à savoir qui pourrait devenir juré de la version française. L'émission devrait tenter de convaincre quelques-uns de ceux qui sont aujourd'hui les plus gros vendeurs de disques en France.
Ils pourraient mettre Booba et Kaaris comme ça en plus sur une séquence octogone.
Ça
et puis,
assez chouette, ouais.
Les chaînes de télé ont aussi bien compris que le rap et le hip-hop avaient de plus en plus de fans.
Beaucoup ont souvent reproché à la télé de négliger les cultures urbaines, mais une grande chaîne semble s'intéresser de très près à cette musique, aujourd'hui la plus écoutée de France. Et cette chaîne, c'est France 2, qui a diffusé au cours des derniers mois de nombreux concerts des grands noms du rap français, après avoir proposé les lives de Damso, Oxmo Puccino, Youssoupha, le dernier concert de NTM à l'Hôtel Accor Arena ou Gims à Marrakech. La chaîne publique vient tout juste, selon nos informations, de mettre en boîte une nouvelle émission dans laquelle un artiste se produit sur scène et accueille son crew, ses amis artistes, pour chanter à ses côtés. Le premier numéro a été tourné au Bataclan mercredi dernier avec le jeune rappeur Ninho. Ninho, il a 23 ans. Son album s'est classé dans les 5 disques les plus vendus en France en 2019. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Ninho, c'est ça.
Défoncé d'après les analyses, tu veux savoir ce qui s'est passé depuis. Je te dirais que je vois plus beaucoup la famille, qu'il faudra 10 millions pour me rassasier. Rouge ou noir, je suis dans le casino, je n'ai pas du tout besoin d'allier. Je les entends tous parler de casier, mais ils n'ont rien du tout des millions.
Et ce nouveau rendez-vous baptisé Concert & Co devait être diffusé prochainement sur France 2 qui souhaite rajeunir son public. D'autres numéros et d'autres artistes devraient suivre. Alors comme dirait l'autre...
C'est de la bombe, bébé. Merci beaucoup Benjamin Delsol, à demain.